Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonne récolte, on avait 8 embryons. Donc quand ils appellent là le lendemain de la ponction, donc ils en ont congelé 4 à J3. Ils m'ont dit ben il en reste encore 4, mais ben on sait pas trop là, on les a pas congelés aujourd'hui. Donc on attend de voir un peu comment ils évoluent. Et puis il me dit ah oui ben on vous a pas rappelé parce que ben on les a achetés les 4 là et c'était pas bien. C'était pas rien pour nous ces 4 embryons quoi.
Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui lève le tabou sur la fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et je suis heureuse aujourd'hui de donner la parole à Marion, qui nous parle depuis ma ville natale, Brest. Marion nous raconte avec pudeur et bienveillance son histoire, celle d'un couple qui rêvait d'avoir des enfants. Elle nous raconte comment sa première grossesse a mis un an avant d'arriver, une grossesse simple, facile et épanouissante, une grossesse qui ne la laissait nullement présager de son premier accouchement, plutôt compliqué, mais qui l'amena tout de même à rencontrer sa petite Zoé, aujourd'hui âgée de 5 ans. Au bout de 2 ans, son mari est prêt et aimerait agrandir la famille. Si le traumatisme de son premier accouchement est encore bien présent, il ralentit un peu l'envie du petit second, de Marion, qui finalement se laisse arriver à cette famille tant désirée. Après de longs mois d'essais naturels, puis médicamenteux, Marion et Laurent décident de faire une pause avant de se lancer en PMA. Marion nous raconte son parcours, ses fibromes, ses FIV et le test positif tant convoité. Tout va bien. Jusqu'à un soir de décembre où elle ne saurait dire ce qui se passe. Mais elle sait au fond d'elle que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Puis arrive l'échographie à 21 semaines d'aménorrhée et le verdict tombe. Le petit frère de Zoé s'est éteint. S'ensuit son accouchement et la cicatrisation, intérieure et extérieure. Marion nous raconte son histoire et partage avec pragmatisme les questions qu'elle et son mari se posent encore aujourd'hui quant à cette famille tant rêvée. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse Marion vous raconter son histoire. Belle écoute. Bonjour Marion, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne-Fleur.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va, il fait beau aujourd'hui, donc c'est cool. On profite.
Alors, tu nous parles de Bretagne, il fait donc beau tous les jours, ok ? On les choses claires tout de suite.
Tout à fait ça, tout à fait. Mais bon, même quand il n'y a pas de soleil, ça va. Du moment qu'il ne pleut pas chez nous, c'est gagné.
Ma grand-mère dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour à Brest. Est-ce que c'est vrai ?
Oui. C'est vrai. Ah bah oui, ça part, ça revient, oui, c'est sûr.
Bon, mais écoute, je suis en tout cas très contente de te parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on se pourchasse un petit peu pour réussir à caler cette interview. Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi. Et puis, je suis d'autant plus contente, puisque tu viens de Brest et que c'est la ville d'où je viens. Je voudrais commencer en te demandant de te présenter, de dire un peu, je sais pas, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce podcast et à t'intéresser au monde de la PMA ?
Alors, donc moi, c'est Marion. J'aurai 34 ans le mois prochain. J'ai été assistante maternelle pendant 12 ans. Et puis, j'en ai eu un petit peu marre, entre guillemets, de garder les enfants des autres sans avoir... de bébé à moi, donc puis bon, il y a aussi le contexte de ma ville qui a beaucoup d'assistantes maternelles et donc il y avait plus énormément de boulot. Donc du coup depuis 2 ans là pratiquement, je travaille dans un lycée.
Changement avec des bébés un peu plus gros quand même.
Ouais, voilà, des grands bébés. Oui, parce que même à 16 ans ils sont toujours des bébés, hein. Mais non, c'est sûr que c'est une approche différente, hein, mais c'est chouette. Et donc du coup là, je suis en arrêt depuis un moment là, mais je reprends fin août donc pour l'année scolaire prochaine.
Ok. Et alors, avec qui est-ce que tu te lances dans le projet de devenir maman?
Alors du coup, avec mon mari, Laurent, qui a 34 ans aussi, qui est artisan, paysagiste, et notre fille, qui est aussi en grande demande d'avoir un petit frère ou une petite sœur, et qui, donc elle s'appelle Zoé, et elle aura 9 ans en fin d'année.
D'accord, ok. Le projet de devenir parent une première fois, c'est arrivé comment? Et est-ce que cette première grossesse est arrivée facilement?
Alors, donc on a acheté notre maison fin 2009 et très vite, en fait, on s'était dit, enfin, on était jeunes, on avait 23 ans, mais très vite, en fait, on s'est dit que bah, dès qu'on serait installé dans notre maison, on lancerait le projet bébé. C'était quelque chose dont on parlait depuis pas mal de temps.
Vous étiez sûre et prête?
Oui, ben, ça faisait, ouais. Là, ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble. Hein. Ça fait 16 ans, là, cette année.
Waouh, félicitations. D'accord.
Merci. Et donc, du coup, on a lancé les essais bébés début 2010 et ça a été un petit peu long, hein, ça a été compliqué. On a vécu une année compliquée parce que Zoé s'est installée début janvier 2011. Donc, vraiment toute une année où ça a été vraiment difficile de se dire que ben, peut-être qu'on n'aurait jamais d'enfant. Ça a été vraiment, vraiment difficile cette année. Mais donc, elle est venue quand même naturellement au bout d'un an.
D'accord. Donc au bout d'un an, et donc pendant un an, vous avez fait des essais que
oui,
naturels?
Oui.
D'accord. Ok, d'accord. Donc, je veux dire, un an finalement, je ne sais pas si tu en as parlé à des médecins, mais on dit parfois que bon, bah un an, c'est finalement encore dans la norme. Enfin, si on peut parler de norme, je n'aime pas trop ce mot-là.
Oui, tout à fait, ouais.
Dans la moyenne,
oui,
en tout cas.
Oui, non, c'est ça. Enfin, alors au début, mon gynéco disait que ça n'avait rien d'alarmant. Après, quand on a démarré le parcours d'AMP, la gynéco disait quand même que peut-être ça montrait un problème qui était déjà sous-jacent il y a 10 ans, quoi.
Ah ouais.
Alors après, elle
D'accord.
disait que un an, c'était un petit peu long, elle trouvait, mais bon, après, voilà, c'était j'étais sous pilule depuis un moment, donc bon, c'était... ça n'avait rien de trop alarmant, mais bon... C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très, très, très long.
Ouais. Et alors, donc, du coup, cette première grossesse, bébé, donc, s'installe.
Oui.
Naturellement.
Oui.
Tout se passe bien, la grossesse se passe bien.
Ah oui, une grossesse idyllique de rêve, à part quelques remontées acides à partir du cinquième mois. Vraiment, parfait. Une grossesse parfaite. Tout allait bien.
Génial. Ok.
Ouais.
Et la rencontre avec ta fille?
Alors la rencontre a été un petit peu plus chaotique parce que ça a été long déjà, environ 30 heures en tout entre la première contraction et la naissance. Et puis j'ai été soulagée en fait. Enfin la péridurale a été posée un peu plus tôt dans la journée. Donc elle est née à 18 heures. Elle avait été posée dans la matinée et puis finalement c'est mon premier, je savais pas trop tout ça, donc au bout de plusieurs heures, en ayant toujours les mêmes douleurs, je me dis bah tiens c'est bizarre, c'est normal que ça soulage pas tout de suite. Et en fait, elle avait été mal posée, ça, quand j'appuie dessus, ça coulait dans mon dos. Donc
c'est pas vrai.
Si. Donc du coup j'ai été soulagée, il devait être 15 heures quoi, donc 3 heures avant qu'elle naisse. Et donc après, elle a pas du tout souffert. Elle était à aucun moment son cœur a flanché, rien du tout. Mais par contre, j'ai fait moi une hémorragie de la délivrance, donc révision utérine et tout le bazar là. Ça a été un peu compliqué. En fait, je me suis la dernière chose dont je me souviens. Elle est née à 17h47. La dernière chose dont je me souviens, c'est regarder l'heure. Il était 17h55 et je pleurais en disant mais ça y est, je vais mourir, je verrai plus jamais mon mari, je connaîtrai jamais ma fille.
Tu comprenais ce qui se passait en fait?
Ouais, oui. Il me disait, j'entendais de toute façon, ils étaient je crois une dizaine pratiquement. Et puis la tension qui chutait, j'ai perdu pratiquement 2 litres de sang Et ils étaient en fait à deux doigts de me transfuser parce que je suis arrivée à 7 de tension. Et ils allaient brancher ils avaient ramené les poches de sang. Ils allaient me commencer à me transfuser et juste ma tension a commencé à remonter. Et donc du coup ils m'ont pas transfusé, mais bon, ça a été limite. Et du coup ouais, j'ai eu une quarantaine de points de suture. Enfin c'était la boucherie un peu. Et donc j'ai repris ouais. connaissance, il était 20h.
Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, ouais. On est parti un petit moment, quoi.
Ouais, 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 ça a été... Wow. Bah, ils m'ont shooté, du coup, je pense, pour que je m'endorme, quoi. Mais bon, non, franchement, moi, je croyais que j'allais mourir, clairement. Et c'est cette idée est restée longtemps en tête, quand même. Hein. C'était compliqué.
Ah ouais.
Ouais, voilà, avant d'envisager un deuxième... Avoir un deuxième enfant, ouais, ça a été long.
Cicatrisation mentale un peu aussi à faire de tout ce qui s'est passé. C'est vachement traumatique, c'est clair.
Ouais, c'est traumatique, ouais, c'est sûr. Et oui, et puis bon, c'est vrai que les suites de couches n'ont pas été évidentes non plus. Donc la douleur, non seulement il y avait le côté psychologique, mais je me souvenais très bien aussi de la douleur physique que c'était d'accoucher, quoi.
D'accord. Mm-mm. Ok. Voilà, ouais. D'accord. Donc du coup, le postpartum, pas forcément super facile, si ?
Bah non, douloureux, mais bon, après, voilà, Zoé était adorable, elle dormait super bien, elle mangeait super bien, elle pleurait jamais, donc j'étais tellement contente de la voir.
C'est sûr que ça aide, quand ton corps lutte un peu, ça aide quand même d'avoir un petit bébé
oui.
Tout... Je peux dire facile parce que c'est pas un animal, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Ouais, non, bah c'est sûr, oui, ça adoucit. Moi, ouais, ça a été quoi, les 3 semaines, le temps que les points se résorbent bien, tout ça, 3 semaines, 1 mois, où c'était vraiment douloureux, mais bon, après. Et puis, bah, la fatigue, d'accord, forcément, d'avoir perdu du sang comme ça, fatiguée pendant un mois et demi, mais bon. Elle dormait à 5 semaines, elle dormait 20h, 8h, donc, enfin, je me plaignais pas trop.
Ah oui, bien sûr. D'accord. Et alors donc du coup, tu disais donc que t'as pris le temps de te sentir vraiment prête, et physiquement et mentalement pour un deuxième. À quel moment est-ce que cette envie de deuxième enfant est arrivée chez toi ? Et est-ce que c'est arrivé d'ailleurs au même moment chez ton compagnon ?
Laurent, dès que Zoé a eu 2 ans, il a commencé déjà à me dire « Ah, ce serait bien, un deuxième, nanana. » Alors moi, j'étais pas trop dans la même optique, mais bon, voilà, c'est vrai que à force qu'il en parle et qu'il en parle, quelques mois plus tard, donc on était en juillet 2014, donc là, oui, ça commençait à faire son chemin dans ma tête, et puis je me suis dit, en fait, comme la dernière fois, j'étais à fond, je pensais qu'à ça, et que ça a mis 1 an que j'avais trouvé ça long, je me dis là, bon allez, j'ai moyen envie, parce que même si ça met 1 an, ben voilà, c'est pas grave, j'étais partie dans cette optique-là, quoi. Donc j'avais un peu envie, mais un peu peur, donc je me suis dit, ben comme ça va pas marcher tout de suite, ben ça ne me laissera le temps d'être pleinement...
Ouais, t'es partie. Que forcément ça pourrait pas marcher tout de suite, alors que finalement ça avait quand même marché naturellement la première fois.
Oui, mais comme ça avait été long, voilà, je me suis dit que ça allait être long aussi, quoi. Je sais pas, ouais, c'était ce que je m'étais dit à ce moment-là, ouais.
D'accord. Vous vous lancez du coup de manière naturelle, oui. Toi, oui. Tu y vas en te disant de toute manière c'est pas pour tout de suite, donc t'y crois pas vraiment, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ce que je comprends.
Et en fait, je me dis aussi que si j'y crois pas vraiment, que ça va peut-être marcher, parce que la fois d'avant j'y croyais tellement que puis bon, tout le monde te bourre la tête, oui, c'est parce que tu penses trop que ça marche pas, tout ça, là, les fameuses phrases bateau complètement...
Ça va rien.
Oui, ça sert à rien et complètement culpabilisante et complètement débile. Mais du coup, bah ouais, je me disais, si j'y pense moins, bah, ça marchera plus. Du coup, c'est très logique.
Ouais. Non, mais je comprends. Non, mais si, je comprends ce que t'as... Ce par quoi tu passes, d'accord. Donc du coup, vous essayez naturellement. À quel moment est-ce que vous vous dites que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main ?
Eh ben, au bout d'un an, sans aucune accroche, alors je commence un peu à... Enfin voilà, forcément, on ciblait par rapport au jour les plus propices, mais bon, voilà, c'était par rapport à la moyenne, quoi. Donc, j'ai commencé à faire des tests d'ovulation pour vraiment plus cibler tout ça. Et en fait,
Et donc, toi, à ce moment-là, t'étais beaucoup plus dans le projet,
oui,
et peut-être moins dans la crainte que tu l'étais au début.
Ouais. Oui, ouais, ouais.
D'accord.
Ouais, ouais. Et en fait, on a fait plusieurs mois avec les tests d'ovulation et j'en ai eu aucun positif, je crois, ou deux peut-être, mais vraiment pas grand-chose.
Ah oui.
Ouais. Alors est-ce que c'était les tests qui étaient pas terribles, enfin je sais pas trop. Mais donc on a décidé en l'été 2016, donc ça faisait 2 ans. Là, on s'est décidé à téléphoner à mon gynéco de ville pour le voir, quoi, pour être aidé. Et donc on a eu un rendez-vous en septembre 2016, donc on a fait quelques mois avec avec Clomid là et prise de température.
T'as fait un bilan d'abord avant de vous proposer de l'aide?
Oui, Laurent avait fait un spermogramme, il me semble, à cette époque-là déjà, oui. Oui. Et puis c'était normal, rien d'alarmant. C'était pas fou,
d'accord,
les résultats,
mais côté hormonal aussi.
Et moi, côté hormonal, c'était normal aussi. C'est en fait les résultats étaient pas mirobolants, mais bon, c'était dans la normale basse, quoi. Mais bon, c'était dans la normale quand même. Et donc oui, on a fait après ce rendez-vous là quelques mois avec Clomid et prise de température. Là, le Clomid, c'est le médicament pour booster l'ovulation un petit peu. Et donc en décembre toujours rien. Et là je me dis on prend les devants. Et puis j'ai téléphoné donc au centre de PMA le plus proche de chez nous. Et coup de chance, un rendez-vous se libérait mi-janvier donc 2017. Donc
donc pas longtemps après ton appel.
Ouais, voilà, tout le jour et la semaine après pratiquement. C'était tout fin décembre que j'avais appelé. Et donc du coup on a fait notre premier rendez-vous de PMA donc en janvier 2017. Voilà.
Alors, pour être sûr de bien comprendre, t'as pas besoin de passer, bon, comme je ne suis pas passée par les parcours en France, peut-être que je dis des bêtises, mais t'as pas besoin de passer du coup par ton gynéco qui doit te référer au centre de PMA, tu peux toi directement y aller et dire hello, ça marche pas, j'aimerais rencontrer des médecins ici pour nous aider à concrétiser notre projet bébé.
Oui, pour nous, en tout cas, enfin, quand on a vu mon gynéco en septembre, il nous avait dit que, en fait, lui, il voulait qu'on prenne le Clomid là pendant 6 mois, et après, il nous avait dit si dans 6 mois il y a toujours rien, je vous enverrai, enfin, vous donnerai les coordonnées du centre de PMA de Lorient pour voir quelqu'un, quoi. Et finalement, voilà, je lui avais téléphoné fin décembre, je lui ai dit j'en ai marre, il faut que ça avance. Et puis du coup, je lui ai dit moi j'appelle à Lorient, et il m'a dit oui, vas-y, appelle, pas de souci.
D'accord.
Donc,
okay.
Non, il y a pas. D'accord. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous, il y a pas besoin d'avoir une recommandation.
Super. D'accord. Ouais. Alors ce premier rendez-vous donc en centre de PMA. Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes tous les deux? Plutôt tournés vers la solution, plutôt concentrés sur le problème et peut-être l'inquiétude de l'inconnu, hein, parce qu'on arrive comme dans un monde un peu nouveau. Comment ça se passe de votre côté?
Ouais, on n'était pas si inquiets que ça. Finalement, moi, en fait, je me disais, la première fois, ça a marché naturellement. On ne doit pas avoir besoin de beaucoup d'aide pour que ça fonctionne, quoi. Moi je me suis pas enfin je me suis dit que ça allait être super rapide le passage en PMA, que ça allait que voilà, la première insémination, c'est bon, ça allait être bon,
il y a pas de problème, c'est plus formalité qu'autre chose, quoi.
Ouais, à ce moment-là, on n'est pas du tout stressé, même au contraire, on est hyper impatient, hyper content du coup d'y aller, quoi. C'est pas encore ce qui nous attend.
Tu connaissais des gens qui étaient passés par la PMA à ce moment-là?
J'ai une amie très proche qui est passée par là aussi pour avoir ses enfants. Et donc, on en avait beaucoup discuté. Et puis, je m'étais pas mal renseignée aussi de mon côté. J'étais au courant de plein de choses déjà, avant d'y aller.
Ok, bon, super. Et donc, alors, comment est-ce que ça se passe alors cette rencontre avec avec ton nouveau centre de PMA, donc à Lorient, si j'ai bien suivi.
Oui.
Quel est donc le parcours, je dirais, initiatique pour rentrer dans ce centre. Et puis, qu'est-ce qu'on vous propose?
Et du coup, là, on part, donc on refait tous les examens, enfin les prises de sang hormonales, tout ça, le spermogramme pour Laurent, on refait tout ça qu'on avait déjà fait en septembre, mais bon voilà, on refait tout. Et puis voilà, moi j'ai fait une hystérosalpingographie là, qui s'est pas du tout bien passée au centre de radiologie. J'ai pas fait à l'hôpital, j'ai fait dans un centre de radiologie. Et bon, la personne n'en avait fait qu'une, je crois, dans toute sa carrière. La personne qui était plus qui en faisait le plus n'était pas disponible ce jour-là. J'avais pas pris rendez-vous le jour même, hein. Mais bon, bref. Donc du coup, elle s'est énervée en fait. Elle n'arrivait pas, donc elle s'est énervée en me disant ah ben voilà. De toute façon, c'est de votre faute, c'est bouché, voilà, bon bah c'est bouché, moi j'arrête, j'en ai marre. Du coup, je suis ressortie de là, forcément, morale dans les chaussettes, alors que bah on m'avait dit ça fait super mal, tout ça, mais bon, finalement, moi le produit est jamais passé, donc j'ai pas eu mal du tout, hein, parce que ça fait mal surtout quand ça se débouche. Donc oui, donc elle a dit qu'il fallait absolument faire une cœlioscopie exploratrice pour voir quoi qu'il fallait se faire opérer. Donc ma gynéco a dit que effectivement si on voyait rien à la radio que oui il fallait voilà faire une cœlioscopie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'était en mars 2017. Mm-hmm. Donc voilà, elle a nettoyé tout ce qu'elle avait à nettoyer. Effectivement, il y avait un petit peu d'adhérence due à l'hémorragie de l'accouchement de Zoé, apparemment. Je trouvais ça bizarre quand même, autant d'années après, mais bon, bref. Donc elle a nettoyé ce qu'elle a vu de pas bien, mais bon, voilà, c'était pas catastrophique non plus, hein. Ça allait. Et donc, bah, on était super confiants pour la première insémination donc, qui a eu lieu le mois suivant, il me semble. Au mois d'avril.
D'accord.
Ou mai, enfin vers là. Donc, en fait, on en a fait 4 en 2017, là. Donc, 4 négatives, bien sûr. Et donc, du coup, oui, jusqu'en novembre. On a terminé en novembre 2017 les inséminations.
Vous avez sacrément enchaîné, hein, quand même.
Ouais, ben avec un mois de repos à chaque fois. Donc c'était quoi?
Ouais.
Mai, juillet, septembre et novembre. Voilà, ouais, c'est ça.
D'accord. Mm. Ok. Donc du coup, malheureusement, elle se solde par des négatifs.
Ouais.
C'est quand même aussi éprouvant psychologiquement de passer par autant d'insémination en si peu de temps. Dans quel état vous êtes à la fin de ces 4 essais?
Alors moi je suis au plus mal tant physiquement que psychologiquement. Franchement ça a été vraiment difficile. Je sens que j'ai vraiment changé depuis tout ça. C'est même pas que j'ai moins de patience, je dirais. C'est au niveau de la frustration, j'ai l'impression. Je supporte pas que les choses n'aillent pas comme je veux. Je pense que en fait j'aime bien avoir le contrôle, j'aime bien diriger.
Ouais.
Et en fait avec ce
c'est hyper
parcours
dur, de lâcher.
Ouais,
tu peux rien quoi.
Avec ce parcours on contrôle rien du tout. Donc je m'énerve assez vite du coup pour toutes les autres choses parce que faut que je contrôle quelque chose à côté quoi. Mais c'est vrai que psychologiquement là c'est vraiment difficile et puis on se dit que ça va jamais marcher quoi. On a vraiment un découragement total quoi. Et puis en fait au bout de la troisième insémination on avait demandé à passer sur une FIV tout de suite et elle a pas voulu la gynéco de l'AMP Elle a voulu qu'on fasse une quatrième insémination et ensuite elle nous a dit que ok, on démarrerait une FIV donc début 2018 et du coup ben Laurent il a vraiment mal vécu donc le quatrième échec et il voulait plus rien savoir, il voulait plus y retourner quoi. Il était en colère contre elle aussi un peu parce que elle nous avait pas écouté en gros et puis ben peut-être que si on avait démarré les FIV à ce moment-là, peut-être que ça aurait marché, quoi. Ouais, on peut pas toujours savoir, mais...
D'accord. Et pourquoi est-ce que vous vouliez une FIV particulièrement ? Enfin, je veux dire, vous saviez que ça pouvait vous offrir quelque chose de particulier parce que n'ayant pas de problème particulier, vous disiez on va passer la seconde, quoi.
Oui, voilà, c'était vraiment pour, trois inséminations qui fonctionnent pas, on se disait, on continue, on passe à l'étape d'après quoi on reste bien pas ça faisait déjà même si on c'est sûr qu'on a mis quand même 2 ans à se faire aider mais celle-là on était quand même à plus de 3 ans d'essai quoi donc on en avait marre en fait.
Non mais tu vois, de toute façon ça a déjà été mise à rude épreuve quoi. D'accord. Ok, donc du coup après ce quatrième essai Laurent ne veut plus vraiment entendre parler de la PMA. Comment est-ce que vous faites ? Du coup, vous faites une pause aussi, peut-être tous les deux, pour vous retrouver avant de passer à la suite ? Comment ça se passe ?
Ouais, on fait vraiment une pause. En fait, toute l'année 2018, on arrête, on n'y va plus du tout. C'est vrai qu'au début, ça a été assez difficile pour moi, mais bon... c'était difficile aussi de lui imposer moi j'avais vraiment envie de continuer tant qu'on y était d'y aller et puis que ça allait arriver plus rapidement forcément si on avançait mais lui il avait besoin de cette pause on a fait une pause au début on s'était dit j'avais dit ok pour 6 mois j'avais dit en juin 2018 il y a toujours rien on retourne et puis finalement en juin est arrivé super vite et puis même moi en fait j'avais pas spécialement envie non plus d'y retourner et puis quand même fin 2018 à un moment là en fin d'année là quand c'est un peu le rétrospectif de l'année, on se dit là ça fait 4 ans, on a toujours rien. Après 1 an d'essai encore tout seul là, y a rien du tout. Donc j'ai rappelé l'AMP en novembre 2018 et on a eu un rendez-vous donc en janvier 2019.
Et est-ce que justement pendant cette période de pause, vous essayez de mettre des choses un peu en place pour vous chouchouter, je veux dire, au sein de votre couple, tous les deux, ou même chacun de votre côté? Comment est-ce que vous faites pour gérer peut-être cette attente?
L'attente n'a pas été si difficile que ça à gérer, parce que c'est vrai que, mine de rien, oui, cette pause, elle a vraiment fait du bien, en fait, psychologiquement. Moi, j'ai relâché assez bien, mais non, on n'a pas demandé d'aide particulière, on n'a pas fait de choses particulières, mais après, oui, finalement, on continuait de faire des choses tous les deux, bon, ça, même pendant la PMA, on le faisait, non, on n'a rien fait de spécial.
Okay.
Laissé la routine s'installer.
Elle avait quel âge, votre fille, à ce moment-là?
Elle avait 7 ans.
Et elle vous a demandé déjà d'avoir un petit frère ou une petite sœur?
Oui, Zoé, ça a été difficile. C'est très difficile pour elle d'ailleurs toujours. Hein. Elle, par contre, elle a été voir une psychologue. Elle devait avoir 4 ans à peu près, et elle me faisait des scènes pas possibles à la sortie de l'école. Parce que forcément, moi, je venais la chercher en maternelle. J'étais tout le temps toute seule pratiquement. Et en fait, elle hurlait à chaque fois. Elle me disait regarde, elle, sa maman, elle vient la chercher. Elle est enceinte. Elle, sa maman, elle a un bébé. Elle
a 4 ans,
grand frère.
Vous comprenez tout ça?
Ah ouais.
C'est dingue.
Ah ouais, ouais, ouais. Mais sa maîtresse, elle hallucinait à chaque fois aussi de voir dans quel état elle se mettait. Elle était en moyenne section. Et elle a toujours été très très en avance niveau parole, tout ça. Et ouais, elle m'en voulait énormément en fait, parce qu'en fait elle croyait, donc on a su ça avec grâce à la psychologue après, elle croyait qu'on voulait pas de deuxième enfant parce que on ne l'aimait pas assez. Comme quoi des fois les enfants c'est vraiment tordu, hein. Et des fois ils ont ces idées. On se demande d'où ils sortent ça, mais ouais, donc la psychologue lui a fait beaucoup de bien. En fait, nous, on lui en parlait pas parce que voilà, elle avait 4 ans, on lui parlait pas de l'AMP, tout ça. On lui parlait pas du tout du parcours. Et donc elle croyait que oui, on voulait pas du tout avoir d'autres enfants. Et donc à partir de ce moment-là où on lui a dit que si on voulait avoir d'autres enfants mais que on n'y arrivait pas, ça a été beaucoup plus doux. Elle s'est adoucie pas mal. Et puis la psychologue lui a dit aussi que ça nous faisait mal au cœur quand elle en parlait beaucoup. Donc du coup elle a un peu arrêté d'en parler. Elle en parlait différemment. Ça lui a fait beaucoup de bien à elle. D'aller voir quelqu'un.
D'accord. Pour extérioriser sa colère, potentiellement, sa déception.
Oui, mais c'est vrai que, c'est vrai que moi, je voyais pas expliquer à ma fille de cet âge-là que, oui, on essaye, mais que ça marche pas. Je me disais qu'on allait s'embarquer dans des questionnements qui allaient aller un petit peu loin, et du coup, c'est pour ça qu'on disait rien, mais bon. Finalement, elle sentait quand même.
C'est effectivement qu'ils sont prêts, quoi. Enfin, c'est hyper difficile, oui. de se rendre compte. D'accord.
Ah bah oui.
Ok, non, mais c'est hyper intéressant, effectivement, d'avoir des idées comme ça de comment aborder ces choses-là avec les enfants, puisque les activités secondaires, c'est pas rare. Et donc, c'est clairement une situation dans laquelle nos éditeurs et auditrices se sont, en tout cas, beaucoup d'entre eux se sont déjà retrouvés. Donc, du coup, si je reprends chronologiquement, là, on est fin 2018. Rappelles le centre de PMA. Et donc là, l'objectif, donc, c'est de passer à une FIV, c'est ça?
Oui, on arrive du coup au rendez-vous là en janvier 2019. Et puis, on lui dit qu'on veut reprendre les essais et que... On veut que ça marche cette fois-ci. Donc elle nous oriente tout de suite vers une FIV.
Ok, d'accord. Et alors comment est-ce que ça se passe cette fois-ci? Dans quel état d'esprit vous êtes? Du coup, vous êtes beaucoup mieux, j'imagine. Comment se passe cette?
On est vraiment reboosté à bloc. Là, on a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi, et d'avoir du résultat et que ça marche, quoi. Donc du coup on a démarré, on a refait quelques examens, quelques spermogrammes, les prises de sang, tout ça, les cariotypes et tout ça, et donc après là je sais pas comment c'est dans les autres centres, mais donc il y a un rendez-vous obligatoire avec la psychologue, on a fait ça. Et ah oui, tiens, tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas démarré de visite à la psychologue, mais si, moi, je l'ai vue, je l'avais déjà vue, moi, avant début 2019, mais moi, je l'avais déjà vue, pendant la pause en 2018, je l'ai déjà vue plusieurs fois.
D'accord.
Je pense maintenant. Okay. On se perd un peu.
Vous avez tellement c'est vrai. Temps.
Ouais. C'est clair. Donc oui, du coup, on a démarré, donc on a vu le biologiste entre janvier et mars 2019, le biologiste, la psychologue, donc refait tous les examens, et puis donc en mars on a démarré le traitement pour la FIV. Donc du coup on a fait la ponction fin avril, et on n'a pas fait de transfert de frais parce que sinon j'aurais fait une hyperstimulation. On a eu 4 embryons qui ont été congelés à J3. Ouais, on était contents, 4... Enfin, on était contents, entre guillemets, parce que en fait, ça a été une bonne récolte. On avait 8 embryons au départ. Donc, quand ils appellent, là, le lendemain de la ponction, il y avait 8 embryons. Et ils en ont congelé J4 à J3. Et après, donc ils m'ont dit, donc ils m'ont appelé à J3 pour me dire que les 4 embryons étaient congelés. Ils m'ont dit, ben il en reste encore 4, mais ben on sait pas trop là, on les a pas congelés aujourd'hui, donc on attend de voir un peu comment ils évoluent. Donc on vous rappelle. Et après, plus de nouvelles. Donc j'ai mis plusieurs jours à avoir le biologiste au téléphone. Et puis il me dit, ah oui, ben on vous a pas rappelé parce que finalement, on les a achetés, les 4.
Là, ça a été, il vous dit ça comme ça?
Ouais, au téléphone, il me dit, bah, on les a achetés, les 4, là, et c'était pas bien. Oh là, ça m'a foutu un coup au moral, du coup, je me suis dit, bah, voilà, c'était pas rien pour nous, ces 4 embryons, quoi. Bon, voilà, après, je me recentre assez vite en me disant que, bon, bah, on en a déjà 4, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été difficile à encaisser quand même. Il m'a fallu un petit moment pour me réjouir.
Je comprends. Ils congèlent tout ça, enfin, tout ce qui reste, donc, et vous programmez donc le transfert le mois suivant?
Oui, on a fait, donc là, on est fin avril, on a fait, oui, fin mai, donc le premier transfert d'embryon. Donc ça a pas marché et ça a été assez difficile. Enfin pour moi, c'était comme au début des inséminations. Là c'était voilà, on te met un embryon. Pour moi c'était sûr qu'il allait s'accrocher quoi. Il y avait pas de questions à se poser. Et puis bah finalement non, ça n'a pas fonctionné. Donc on a refait un deuxième transfert dans la foulée en juin et ça n'a pas marché non plus. Donc, à Lorient, ils veulent pas qu'on transfère 2 embryons à la première tentative. Donc, la deuxième, on avait suivi toujours sur 1 aussi, mais il nous en restait 2. Et donc, du coup, on décide assez vite au prochain transfert de mettre les 2. C'est vrai que moi, j'avais entendu dire que il y avait pas mal de bons résultats quand même quand il y en avait 2, que ça aidait au moins un à s'accrocher. Donc du coup, on décide au prochain transfert de mettre les 2.
Ok. Et alors, du coup, comment ça se passe? Est-ce que ça marche?
Ouais. Du coup, c'était en septembre 2019, donc début septembre, là, dernier. Et donc, oui, assez vite, en fait, je sentais que ça allait marcher. Et donc quand on fait la prise de sang 14 jours après là, super, un taux à 226. Donc on était super contents, ça y est, c'était enfin notre tour, enfin terminé la galère. Et du coup moi j'ai fait plusieurs échographies à Lorient, à l'AMP, au centre d'AMP pendant les semaines qui ont suivi là, et puis à l'échographie du premier, donc l'échographie du premier trimestre arrive, donc on est le 12 novembre 2019. Mmh. Et en fait donc bah tout est nickel, le bébé, tout va bien, voilà. Et par contre, on découvre plus ou moins 3 fibromes.
Ah, qu'est-ce que c'est un fibrome?
Alors, du coup, c'est des fibromes, c'est des tumeurs bénignes que voilà, on a toutes plus ou moins dans. Enfin, c'est très répandu chez les femmes. On est nombreuses à en avoir dans notre utérus, mais elles sont vraiment toutes petites, quoi. Et en fait, avec les traitements de la FIV et puis bah les traitements hormonaux pour les transferts et tout ça, bah les miens, j'en ai 2 qui ont bien grossi, enfin qui avaient un petit peu grossi. On les a découverts juste avant le dernier transfert d'embryon, donc fin août. J'en avais un qui faisait 2 cm et un qui faisait 3 cm. Et donc à l'écho du premier trimestre, donc j'en avais 3, et donc il faisait 7, 6 et 5 cm de diamètre.
Ouais, quand même. D'accord.
Ouais. Oui, donc c'est vrai que moi je les avais un peu oubliés parce que à l'AMP ils m'avaient dit bah c'est rien, voilà, ils sont petits, donc 2-3 cm ils faisaient en septembre, enfin fin août, début septembre. Et elle m'avait dit, ben, ça gênera pas, ils sont petits, tout ça. Mais bon, avec les hormones de la grossesse, plus les hormones que j'ai continué à prendre les 3 premiers mois, du coup, ils ont bien profité, quoi.
D'accord, ok. Mmh. Donc, du coup, les médecins ne sont pas particulièrement inquiets. Mais comment est-ce que ça se passe, du coup comment est-ce que vous continuez cette grossesse?
Ben non, du coup, mon gynéco est pas du tout inquiet. Il me dit juste que ben là, on arrête tout, c'est repos, quoi. Il disait que en fait les fibromes ont tendance à grossir quand on bouge, tout ça. Enfin, c'est très vascularisé, donc ça grossit quand on bouge de trop et tout ça. Et donc il m'avait dit qu'il fallait absolument rester au repos.
C'est pas facile, sachant que t'as déjà en plus une petite fille. Ou t'en es à combien là de temps de ta grossesse?
C'est les coûts du premier trimestre. C'est tout petit. Après, Zoé est grande. Voilà, c'est surtout au niveau du boulot. Si la rentrée c'était en septembre, on est au mois de novembre. Il faut que je leur dise que je pars. C'était un peu compliqué, mais bon, non, ça n'a pas été facile, mais bon, après, voilà, ça faisait tellement de temps qu'on l'attendait, j'ai suivi à la lettre les recommandations, du coup, tout le mois de décembre, j'ai pas fait grand-chose entre le fauteuil du bureau et le canapé, j'ai pas bougé trop, et après, forcément, donc à cause des fibromes, j'avais quelques douleurs, mais bon, c'était franchement supportable. Fait en décembre, mi-décembre, la visite du 4e mois. Du coup, il me faisait une échographie régulièrement quand même pour vérifier les fibromes. Donc à la visite du 4e mois, les fibromes n'avaient pas du tout grossi. Donc ils étaient stabilisés. Après, mon gynéco me disait que... plus la grossesse avance, qu'ils pouvaient diminuer, quoi. Mais qu'en tous les cas, là, si en un mois ils n'avaient pas grossi, que il y avait peu de chances pour qu'ils grossissent après, quoi. Surtout que j'avais terminé mon traitement hormonal début décembre, du coup on était assez confiants. Et du coup fin décembre, le dernier jour d'année, le 31 décembre, j'étais pas malade, mais je me sentais en petite forme, j'avais un peu mal au ventre, je trouvais qu'il était un peu gonflé, enfin un peu plus gonflé que d'habitude. Bon, au début je me suis dit c'est normal, enfin voilà, il grossit, voilà, c'est normal. Et puis le lendemain j'avais eu les jambes enflées aussi. Bon, après je me suis dit c'était normal pendant la grossesse d'avoir les jambes un peu enflées, alors que moi j'avais pas fait grand chose, mais bon, bref. Et le lendemain plus rien, mais je trouvais que mon ventre avait diminué par contre. Alors ça me mettait peu la puce à l'oreille. Puis bon, après je me suis dit que c'est moi qui déraillais complètement, que je me faisais des idées. Et donc j'avais rendez-vous le 7 janvier, donc pour la visite du 5e mois. Plus la date approchait, plus je faisais des cauchemars. J'étais persuadée que cet écho, qu'il allait nous annoncer que le cœur du bébé battait plus. Et je pensais qu'à ça, nuit et jour. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je déraille complètement. Mmh. Et puis j'en ai même parlé à ma sage-femme la veille du rendez-vous, et elle m'a dit que c'était une peur complètement irrationnelle, quoi, et que j'allais être soulagée le lendemain. Finalement, à cet écho-là, donc le 7 janvier, donc, à la visite du 5e mois, mes craintes se sont révélées positives. Donc le gynéco nous a annoncé que notre bébé était décédé.
Oh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Sur le moment, il avait aucune explication à donner. Même lui, il était complètement abasourdi, quoi. il se demandait, enfin, il a essayé de regarder s'il avait pas loupé quelque chose, mais non, il voyait rien du tout. Par contre, il nous a dit que, ben, il était décédé depuis au moins une semaine. Alors, sept jours avant, on était ce fameux soir du Nouvel An, et où j'avais senti que il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Mais bon, après, j'en ai parlé, il m'a dit que même si j'avais été à l'hôpital à ce moment-là, que de toute façon, ça aurait strictement rien changé. Non, il disait que non. Après, donc on était exactement 18 semaines de grossesse, 20 semaines d'aménorrhée.
Pour avoir plus d'explications sur ce qui s'était passé, on a accepté que notre fils soit autopsié. Donc on a laissé son corps à l'hôpital. Et il est parti en autopsie dans la foulée. Alors après, il y a eu le confinement, donc on n'a pas eu de nouvelles tout de suite. Mais début avril, mon gynéco m'a téléphoné du coup pour me faire part des résultats de l'autopsie. Donc il en est ressorti qu'il n'avait aucune malformation chromosomique, aucune anomalie visible, il n'avait aucune maladie, rien du tout, qu'il y avait juste son cordon ombilical qui était trop long et qu'il était pincé et affaissé à plusieurs endroits. Donc ils émettaient l'hypothèse qu'il aurait pu manquer d'oxygène et que c'est ça qui aurait pu provoquer l'arrêt de son cœur. Mais après, notre gynéco était pas vraiment très convaincu par cette explication. Il pense simplement que il était juste pas assez costaud.
D'accord. Et donc suite à cette annonce, du coup t'as dû accoucher?
Bah là, il me dit assez rapidement que va falloir accoucher. C'est difficile à encaisser, surtout que après l'accouchement de Zoé, en fait, dès le début de la grossesse, même dès l'échographie du premier trimestre, je lui avais dit que moi, je voulais une césarienne. C'était hors de question que je re-accouche, quoi.
Eh ouais.
Et donc là, de toute façon, la question se posait pas hein, quand il a. Il m'a annoncé que c'était obligatoirement un accouchement voix basse. Il m'a dit, de toute façon, là, à ce stade, si on fait une césarienne, ça va se terminer en hystérectomie pratiquement à coup sûr, quoi. On fait pas du tout de césarienne à ce stade de la grossesse, quoi.
D'accord.
Donc,
Vous avez programmé l'accouchement rapidement après ce rendez-vous?
Ouais, là, ça, c'était le mardi soir, et il m'a rappelé le jeudi, vendredi matin, on a passé toute la matinée à Lorient, à l'hôpital pour rencontrer la psychologue, la cadre du service pour nous expliquer comment ça allait se passer, rencontrer l'anesthésiste aussi. Et donc, c'est des accouchements à risque, que souvent les femmes font souvent des hémorragies dans ce genre d'accouchement, et comme moi j'en avais déjà fait pour Zoé, du coup ils avaient déjà tout prévu, enfin les poches de sang, tout ça, et puis donc ça a été programmé donc pour le lundi suivant, donc le 13 janvier, parce que du coup il y avait le radiologue disponible sur l'hôpital là pour emboliser si jamais il y avait besoin. Ils avaient vraiment vu large, ils avaient vraiment tout prévu, donc c'était assez rassurant dans ce sens. Mais c'est quelques jours là entre l'annonce et puis l'accouchement là, ça a été vraiment difficile hein, comme tu peux t'en douter. Ça a été c'est surtout après, en fait, que plus après que j'ai vraiment craqué, parce que là, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé d'avancer, de toute façon, faut aller au rendez-vous, faut prendre les médicaments, faut y aller, quoi.
Vous en aviez parlé à ta fille de la grossesse qui était arrivée, et du coup, vous avez dû lui parler de la fin de sa grossesse.
Oui, en fait, le lendemain de l'écho du premier trimestre, donc au mois de novembre, on lui avait annoncé chez mes parents donc qu'elle allait être grande sœur. On lui avait offert un t-shirt grande sœur. Elle était super heureuse. On a eu une magnifique vidéo d'ailleurs. Elle a pleuré de joie toute la journée en disant merci, merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Elle était trop contente.
Un petit jour.
Et puis après, oui, elle l'a largement diffusé ensuite. tous les gens qu'elle rencontrait, de la caissière du supermarché toutes les maîtresses de l'école, tout le monde était au courant très très vite. Et non, elle était très contente. Et en fait, le jour de l'échographie, là, elle était là. Elle était avec nous.
Ah,
parce que il nous avait dit le gynéco qu'elle pouvait venir parce que c'était sûrement là, qu'on allait sûrement voir le sexe quoi du bébé. Donc du coup elle voulait venir et puis voilà, il y avait aucune contre-indication
bien sûr
parce qu'elle ne vienne pas.
Mmh.
Et puis bon, après de toute façon, même si elle avait pas été là, il aurait fallu lui dire après, donc toute façon on était tous les trois et puis donc oui, elle a tout suivi en direct. Et ça a été difficile pour elle aussi, hein, évidemment. Ça a été on a énormément pleuré ce soir-là, là, en rentrant. Je me souviens, en sortant, on est resté au moins 20 minutes dans la voiture, tous les trois, là, personne parlait, tout le monde pleurait. C'est vrai que ça a été assez surréaliste comme scène.
Et excuse-moi, je sais plus. Tu sais donc du coup si ça a été c'était un petit garçon, une petite fille?
Oui, alors moi je le sentais depuis le début.
C'est vrai?
Je savais depuis le début, je savais que c'était un petit garçon. Ouais.
Comment t'expliques ça, ce ressenti?
Ah, je sais pas. J'étais sûre. Sûrement parce que j'étais pas du tout. Que ça s'est pas du tout passé comme pour Zoé, parce que. J'étais après c'était peut-être à cause des fibromes aussi, je sais pas, mais forcément j'étais plus fatiguée, j'avais pris moins de poids, j'avais moins de ventre, j'avais plus de nausées, ouais, mais je sais pas, donc j'étais intimement persuadée que c'était un garçon. Et du coup oui, ça nous a été confirmé le jour de l'accouchement, en fait, parce que il avait pas pu voir le soir de la quand on a découvert qu'il y avait plus de cœur, il a pas pu voir, donc ça a été confirmé le jour de l'accouchement.
Tu l'as vu ton petit garçon?
Eh ben non, on n'a pas pu parce que passer rapidement, mais j'ai dormi à l'hôpital moi le dimanche soir, j'étais en salle de naissance le lundi matin à 9h. J'ai eu la péridurale, tout ça, et les premiers médicaments pour aider pour amener le travail, et du coup il est né à 21h, donc ça a été hyper hyper long la journée. Et donc du coup, en fait, dans la journée, ils nous ont demandé si on voulait le voir. Alors, c'est vrai que là, à ce moment-là, on te demande énormément de choses. Quant au devenir du corps, donc si tu veux le voir, si tu veux lui donner un prénom, si tu veux le mettre dans le livret de famille. Ouais, t'es vraiment noyé sous les décisions toutes plus impossibles à prendre les unes que les autres. Et en fait, le gynéco nous avait dit qu'il était déjà abîmé. Donc, en fait, ça faisait déjà une semaine qu'il était décédé. Donc là, on était à au moins 2 semaines. Ça faisait au moins 2 semaines au moment de l'accouchement qu'il était décédé. Donc, on s'était dit que non, on voulait pas le voir. Et puis, finalement, moi, une fois qu'il est né, j'ai demandé à la sage-femme à le voir. Et c'est elle qui m'a dit non, en fait. Elle a pas voulu. Elle m'a dit que c'était pas la peine. Elle m'a dit que ce serait trop difficile pour nous. Que, il était trop abîmé, quoi.
Oh.
Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, je sais pas, c'est, voir ses traits, enfin ce qui ressemble à Zoé, des détails comme ça, mais j'aurais vraiment bien aimé. Mais voilà, ça n'a pas été...
Vous lui avez donné un prénom ?
Non, non, on lui a pas donné de prénom parce que d'accord. Parce qu'en fait on hésitait toujours. Et puis voilà, après c'est vrai que assez vite on s'est dit que on voyait pas l'intérêt, enfin surtout Laurent en fait, on voyait pas l'intérêt de réfléchir à lui trouver le premier prénom qui venait juste pour qu'il en ait un en fait. Mm-hmm. On voyait pas
ouais.
Et puis voilà, les prénoms qu'on aimait bien voilà, c'est des prénoms que qu'on aimerait donner à des enfants vivants qu'on aimerait avoir après, enfin un au moins un enfant ouais. Voilà, enfin, et puis après je me disais aussi tu croises un enfant qui porte le même prénom, bon, ça fait, même si t'as pas besoin de ça pour t'en souvenir, mais
ouais,
ouais, enfin je sais pas, c'est assez compliqué donc ouais, non, on lui a pas,
non, mais
on a pas donné. Et puis en plus on, comme j'ai accouché à 21 semaines d'aménorrhée, on n'était pas obligé, donc non, on s'est pas torturé l'esprit puisque c'est
d'accord.
Pas...
C'est à partir de quel terme tu sais, c'est quoi, c'est 24, 25 semaines que tu dois le déclarer sur ton livret de famille, c'est ça, et lui donner un prénom?
Non, c'est 22.
Ah, 22. Ah ouais, donc c'était vraiment tout juste, d'accord.
Ouais. Okay. Ouais, on était à une semaine près, ouais.
D'accord.
Et à une semaine près, j'aurais eu un congé maternité, il aurait été reconnu en tant que deuxième enfant, là. Mm-hmm. Là, si même si on l'a mis dans le livret de famille, même si on l'a déclaré forcément à la CAF, et ben si on a un troisième enfant, du coup, ben pour eux ce sera que le deuxième.
Ah ouais.
Donc, c'est assez ouais, c'est assez bizarre.
Donc tu dis que t'as pas eu de congé maternité, ça veut dire que après cet épisode traumatique, je pense que le mot est faible, t'as dû retourner au travail tout de suite?
Non, pas du tout, non. Non, j'ai été, non, quand je dis que qu'il y a pas de congé de maternité, c'est que voilà.
T'as peut-être pas eu de congé maternité, mais t'as peut-être eu un congé médical?
Ah oui, oui, bah oui, bien sûr. J'ai été en arrêt tout de suite. Bon, ouais, non, j'ai toujours pas repris. Hein. Là, on est au mois d'août.
C'était en janvier.
Là, j'ai toujours pas repris. Ouais, non, j'ai toujours pas repris. Bah après, au boulot, j'ai été remplacée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà. Puis bon, de toute façon, psychologiquement, jusqu'au mois de juin, c'était même pas la peine d'imaginer retourner au boulot. Hein. J'avais du mal à sortir de ma maison, alors c'était vraiment pas envisageable de retourner au boulot. Ouais. Ils ont été très compréhensifs, ils ont été adorables. Donc j'ai eu un arrêt de travail.
D'accord, ok. Et comment est-ce que du coup ce second postpartum s'est passé? Donc j'imagine bien, comme tu dis, l'aspect mental, ça n'a pas été évident, mais comment est-ce que... et c'est toujours pas évident. Enfin, j'imagine qu'on se relève jamais complètement d'une épreuve pareille. Mais comment est-ce qu'on se reconstruit en fait ? Qu'est-ce que t'as mis en place ou qu'est-ce qu'on t'a aidé à mettre en place pour te reconstruire ? Et peut-être au sein de ton couple aussi, ou peut-être à ta famille, je sais pas.
Ben du coup, c'est vrai que pour l'aspect physique déjà, l'accouchement a été long et j'ai fait à nouveau une hémorragie. Révision utérine, tout ça. Mais j'ai perdu moins de sang, j'ai perdu 1 litre seulement entre guillemets. Ma tension est pas tant que ça descendue. J'ai été jusqu'à 8, je crois, un truc comme ça. Et donc après j'ai fait une réaction allergique, alors je sais pas trop quoi, parce qu'ils m'ont donné tellement de trucs que même eux ils savaient même pas trop bien à quoi j'avais réagi, donc j'ai fait un érythème un peu pratiquement sur tout le corps tout de suite après, donc j'ai re-eu des antibiotiques, enfin de toute façon j'avais des antibiotiques, de toute façon c'était obligatoire dans tous les cas. Après j'ai fait de la température, enfin ça a été j'ai accouché à 21h et Et on est sorti de la salle de naissance, il était 2h du mat, quoi. Il me gardait à l'œil. Mais ouais, ça a été compliqué. Et puis, 2 semaines après l'accouchement, j'ai refait une hémorragie. Donc, retour à l'hôpital, ça a été vraiment, balisant, ce moment-là. J'ai perdu... Bon, ils ont estimé pratiquement 1 litre aussi, parce que ça a pas mal saigné à la maison. Après, le temps d'arriver, le temps d'être pris en charge, et puis que ça s'arrête. En fait, c'était des caillots, des gros caillots. Donc, ils disaient que c'était à cause de des cicatrices qui avaient dû avoir sur mon utérus au moment de l'accouchement, au moment de la révision utérine. Mm-hmm. Que du coup, c'était les caillots qui s'évacuaient à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était hyper impressionnant. Je vois plus mes règles de la même façon depuis ça. C'est le sang, j'ai vraiment du mal.
Ouais. Ok.
C'était au niveau de l'aspect psychologique. J'ai vu la psychologue de l'AMP plusieurs fois, donc ça m'a pas mal aidé quand même. Et puis, de toute façon, après, c'est vrai que c'est aussi le temps qui fait les choses. Hein. De toute façon, on va pas se mentir. Hein. Plus le temps passe, mieux c'est, entre guillemets, quoi. Mais bon, même si ça reste quand même difficile, hein, forcément. Et puis, j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis qui m'ont vraiment beaucoup soutenue. Et notamment, une copine virtuelle qui malheureusement a perdu son bébé à terme, elle, la même semaine que nous. Et du coup, on s'est vraiment suivis. On a vraiment beaucoup discuté de nos états d'âme et de comment on se sentait et de comment on allait. Moi, en tout cas, elle m'a été d'un grand soutien. J'espère que moi aussi, de son côté, pense à la même chose, mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir en parler avec des personnes qui ont vécu la même chose. En fait, on va plus vite à l'essentiel et puis on a exactement les mêmes interrogations, les mêmes ressentis. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de sentir que qu'on n'est pas seul. En fait,
bien sûr. Du coup, cet accouchement, c'est donc arrivé il y a quelques mois, au mois de janvier. On est aujourd'hui au cœur de l'été quand on se parle. Il y a eu donc le confinement entre-temps. Vous en êtes où de votre désir d'agrandir la famille ?
Alors tu parles du confinement. C'est vrai que le confinement a été assez bénéfique pour moi parce que j'étais seule, enfin avec Zoé quand même, mais... Ça a été difficile dans le sens où elle est en demande de plein de choses, de plein d'attention, alors que c'est vrai que moi j'étais pas toujours disposée à j'avais envie d'être un peu seule aussi, donc pendant le confinement on s'est aménagé des temps où chacune vaquait à ses occupations. En début d'après-midi elle avait droit à un peu de télé, de regarder un dessin animé, et puis du coup moi ça me permettait de d'avoir un temps vraiment toute seule pour pas faire grand chose, pour pleurer la plupart du temps d'ailleurs. Mais on a réussi à trouver notre équilibre comme ça. Et puis après c'est surtout par rapport au monde extérieur moi que ça m'a fait du bien. On n'avait pas le droit de sortir, donc c'était très bien pour moi parce que de toute façon j'avais pas envie, donc j'avais pas besoin de me forcer, c'était vraiment vraiment bien. Et donc au jour d'aujourd'hui, on a fait pas mal d'examens. Du coup début mai j'ai fait une IRM pour voir comment étaient rendus mes fibromes. Donc il se trouve qu'ils ont pas beaucoup rétréci. Ils ont perdu à peu près 2 cm chacun, mais il y en a d'autres qui sont apparus. Donc en tout j'en ai 6. Les 3 plus petits font 2 cm de diamètre et les autres font 3,5, 4 et 5 cm. Donc ça fait quand même une belle masse quand même, mais ils sont tous loin de la cavité. Ils sont tous dans la muqueuse, quoi. Ils sont tous intra-muqueux. Du coup, ils ne gêneraient pas, s'ils restent comme ça, s'ils grossissent pas pendant la stimulation, ils ne gêneraient pas pour une prochaine grossesse. Donc, du coup, on a eu l'accord de la PMA pour redémarrer, pour retenter une FIV. Donc, on démarre en septembre.
Ah, super. D'accord. OK. Bon, très bien. Et donc, nouvelle FIV, donc, hein, c'est bien ce que tu disais, c'est pas une insémination.
Non.
Excuse-moi, parce que du coup, j'ai perdu le fil. Donc, c'est un nouveau transfert ou c'est une nouvelle FIV en entier? Il vous restait...
Non, il nous reste plus d'embryon là. Donc non, c'est une nouvelle FIV. Ouais.
D'accord.
On a repris un peu les tests d'ovulation là. Je vais voir un ostéopathe un peu spécialisé en infertilité. J'ai pris un peu d'huile d'onagre, des compléments comme ça. Qui booste un peu censément. Donc, du coup, là, on va voir. Bon, le cycle dernier, ça va fonctionner. On retente sur ce cycle. Et puis, si ça fonctionne pas, on démarrera les traitements, du coup, sur le cycle de septembre.
OK. Bon, bah, écoute, on vous souhaite bien entendu que ça marche. On souhaite beaucoup de bonheur en famille.
Ouais, on croise les doigts après 6 ans.
Ouais.
8 ans quand même.
Ouais, vraiment, je te souhaite vraiment de tout cœur que ça marche. J'aimerais te poser la question traditionnelle que je pose à tous mes invités chaque semaine. S'il y avait un conseil que tu pouvais donner rétrospectivement à toi et Laurent, à vous trois peut-être, je sais pas. Voilà, avec le recul en fait maintenant, est-ce que tu te donnerais un conseil particulier?
Je savais que tu allais me poser cette question et j'avoue que j'ai réfléchi en amont, mais en fait je sais pas. Je sais pas quel conseil je me donnerais. Je crois que je
ne veux rien changer.
Je crois que je me dirais courage, quoi. Dirais courage, continue. Mais en fait oui, je pense que oui, on aurait peut-être été plus vite, quoi. Pas attendu 2 ans au début, j'aurais peut-être insisté pour pas faire de pause, on aurait peut-être gagné déjà 1 an ou 2. Après non, sinon j'aurais pas trop d'autres conseils.
Très bien. Bon.
Non.
Et alors, comme je vous en parlais en tout début d'épisode, voici quelques mots que Marion voulait ajouter à cet épisode. Pour compléter son histoire et pour être le plus fidèle possible finalement à son histoire et à l'histoire de son petit bébé.
Quand Anne-Fleur m'a envoyé l'enregistrement de notre conversation début août, j'ai eu beaucoup de mal à l'écouter. Elle m'a dit que je pouvais rajouter des choses si je le souhaitais. Et effectivement, quand j'ai écouté mon histoire, déjà ça m'a fait très très bizarre. Et ensuite, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je savais pas vraiment quoi, mais j'avais vraiment envie de rajouter quelque chose. Et donc, avec l'accord d'Anne-Fleur, j'ai souhaité rajouter ce petit update. D'ailleurs, merci beaucoup à toi, Anne-Fleur, pour ton extrême gentillesse et pour ta grande patience. Donc, nous sommes fin septembre. J'ai repris le travail depuis 1 mois. Ça a été difficile pour moi, en amont déjà. Quelques jours avant de reprendre, j'étais terrorisée à l'idée d'être confrontée aux gens, aux questions, aux regards compatissants. Mais finalement, ça va. J'arrive à en parler de plus en plus facilement. Quand on me questionne, parce que j'en ai eu déjà plusieurs fois depuis le début de l'année, je dis que j'ai une fille de 9 ans, et un fils qui n'a pas vécu, mais qui a existé 4 mois et demi dans mon ventre. Alors, je vous cache pas que ça m'évite un petit froid à la conversation, mais en même temps, il fait partie de mon histoire. Moi, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de parler de mon fils. Et puis, c'est aux gens de s'adapter. Après tout, ils n'avaient qu'à pas poser la question, hein. Donc, j'ai lu sur Instagram une phrase Donc, je me souviens plus exactement. J'ai oublié de noter d'où ça venait. Impossible de me souvenir vraiment où je l'ai lu. Je m'en souviens même pas en entier, mais en tout cas, j'ai retenu le début. Ça disait « J'ai deux enfants, une qui vit et un qui veille ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Elle m'apaise. C'est vrai que j'y pense beaucoup à ces petites phrases. Je voulais également parler de Julie, du conte À nos étoiles, qui fait un travail fantastique sur la levée du tabou autour du deuil périnatal. Ses potes sont très bien faits, ses mots toujours justes, ses réflexions, ses paroles font vraiment du bien. Je veux vraiment la recommander aux femmes, aux couples qui traversent cette difficile épreuve. Et puis vraiment remercier Julie parce que moi, son conte m'a fait énormément de bien. Donc voilà, maintenant je vais reprendre le chemin de l'AMP, refaire une nouvelle FIV. Et j'espère de tout mon cœur que cette fois-ci nous serons récompensés de notre longue attente et de notre chemin difficile, que nous aurons la chance d'accueillir un troisième enfant, un enfant bien vivant cette fois-ci. Et merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Peut-être, pourquoi pas, pour un nouvel épisode avec Anne Fleur, avec cette fois-ci, je l'espère, plein de bonnes nouvelles. Merci.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un immense merci à Marion d'avoir pris le temps de me raconter son histoire. J'espère que ça pourra vous apporter aussi du soutien et des informations qui sont parfois difficiles à trouver. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, rendez-vous sur Instagram. Vous retrouverez la vignette de l'épisode et vous pouvez venir commenter avec nous et toute la communauté. Si vous souhaitez participer au podcast, écrivez-moi, pareil, sur Instagram ou sur le site internet du podcast. Alors c'est pour bientôt podcast.com. En attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.